Et merde, je vous dis tout. La marque Adam et Ève, sensuelle et amusante, est mon sponsor du moment. Et je vais paraître kitsch parce que j'ai un mec et j'ai envie de fêter la Saint-Valentin. En fait, je vois un peu ça comme l'occasion de se la jouer romantique, dentelle avec des fleurs, lingerie, me faire jouir. Adam et Ève m'a offert le parfait combo pour ça. Une robe ouverte avec longue fente au niveau des jambes, en lingerie noire transparente, idéal pour se sentir désiré, avec un vibromasseur parfait pour les couples. À stimulation interne et externe, peut être contrôlé dans le monde entier avec l'application WeConnect. Tu peux en profiter toi aussi grâce à mon code promo VALCOLETTE, comme Valentin et Colette, en très diminué, VALCOLETTE. Ça te donne 15€ de réduction des 60€ d'achat sur tout le site jusqu'au 14 février. Je glisse les liens dans la description des derniers épisodes de ce podcast. A tout de suite, bisous!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
L-E-L-E-O, lé-lé-lé-lé-lo. Salut les cocos. Avant que démarre notre épisode, permettez-moi de vous parler de Lelo, L-E-L-O, sponsor du podcast Colette se confesse pour ce mois-ci. Et cette année, Lelo, pionnier du marché des accessoires intimes haut de gamme, fête ses 20 ans. Je suis super fière de fêter cette collab avec eux et pour l'occasion de vous offrir un code promo de 25% avec le code COCO25. Je suis hyper heureuse de cette collaboration pour plein de raisons. Voici pourquoi. Alors déjà, ils ne quittent plus ma table de chevet. Depuis que j'ai testé les vibromasseurs Lelo, les copains, copines, amants qui m'écoutent peuvent en témoigner. Quand on arrive chez moi, j'ai quand même quelques vibros dans mon armoire. Mais il y a depuis récemment quelques coquillages qui ne quittent pas ma table de chevet. Et ce sont des produits de la marque Lelo. Je voudrais surtout vous parler du Lelo Dot Cruise. C'est un vibro qui a une forme vraiment spéciale. Au début, quand je l'ai reçu, j'étais en mode « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce truc ?» Je ne comprends pas. C'est un vibro en forme de pointe. On s'est hyper bien entendu avec l'équipe communication de la marque Lelo. C'est vraiment une équipe super chouette avec qui j'espère longuement travailler par la suite. Et en fait, elle a vraiment pris le temps de m'expliquer. Elle m'a dit « Écoute, tu m'avais dit auparavant que t'étais quelqu'un d'assez sensible, voire très sensible, et que du coup, les vibromasseurs, dès que c'était des vibrations trop fortes pour toi, c'était le plaisir passé à côté, quoi. » En fait, le Lelo Dot, toute l'idée, c'est que tu peux vraiment, du coup, pointer ton désir exactement là où tu veux. Et tu peux, du coup, l'utiliser de différentes manières, dans différentes pratiques. Donc, soit pour des choses qui sont vraiment de l'ordre du slow sex, ou soit, en fait, si tu le poses... Alors, moi, ce que j'aime bien faire, ce que j'ai découvert, c'est que je le pose sur mon clito, sur la pointe du clito, mais quelques millimètres juste au-dessus. J'ai les vibrations qui se propagent sur tout le long de mon pubis. Le Lelo, du coup, c'est un vibro qui est allongé en forme de pointe, vraiment comme une forme de coquillage, et donc je l'allonge comme ça du haut jusqu'au bas de l'entrée de mon vagin, et donc ça me procure vraiment quelque chose de très très fort. J'ai quand même testé maintenant plusieurs vibros, et je trouve que souvent le problème, c'est que les modes, on a tendance à les connaître ou à les apprendre de manière assez automatique. Il a une petite particularité, ce vibro-là particulièrement, le Lelo Dot Cruise. Au moment de l'orgasme, il va relâcher 20% supplémentaire de vibration pour justement créer cette décharge dans ton corps. Et moi, ce que j'aime, c'est être surprise. Et là, en l'occurrence, j'ai trouvé que la manière dont les vibrations amenaient le plaisir était vraiment originale, très chouette. Franchement, c'est hyper innovant dans le sens où... Et tu sens que c'est vraiment réfléchi pour à la fois faire du edging et à la fois faire venir le plaisir tout de suite. Sincèrement, je ne ferais pas ce message audio de cette manière-là si je n'étais pas première cliente, première fan de ce produit. Donc, vous pouvez me faire confiance là-dessus. À l'occasion de ce partenariat, exceptionnellement, il y a un code promo sur ce produit, alors que c'est un produit tout neuf, pour 25% de réduction sur le produit neuf, Lelo Dot Cruise. Et en plus de ça, ils sont super beaux. Il y a différents coloris avec une finition dorée, hyper élégant. Au-delà de leurs produits qui sont super classe, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à checker leur site et je vous mets le lien dans la description avec le code promo COCO25. Et franchement, venez me dire ce que vous en pensez. Je serais hyper curieuse d'échanger avec vous. On est toutes et tous vraiment très 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 différents en termes de sensibilité. Et les vibromasseurs, c'est un vrai sujet. J'en parle souvent avec ma communauté sur Discord et sur Instagram. Venez me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à venir poser vos questions aussi. Moi, je l'ai testé, donc si ça peut aider, tant mieux. Ça sert à ça. L-E-L-E-O. Lélélélélo.
Salut.
Bonjour.
Salut, c'est Colette et je suis avec Claudia. Tu préfères que je t'appelle Claudia ou c'est Claudia ou...
Non, Claudia, c'est bien.
Claudia. Salut Claudia. Claudia de Self Love Project.
Bonjour Colette.
Qu'est-ce que c'est Self Love Project en une phrase?
Là, en une phrase.
En deux, en trois. C'est... Bon, en un paragraphe. Vas-y, t'as tout le temps que tu veux en fait.
L'objectif, c'est d'accompagner les gens par rapport à leur vie amoureuse, en leur permettant de se reconnecter à eux-mêmes, d'apprendre à mieux se connaître, à mieux se comprendre, pour avoir une vie amoureuse qui soit un petit peu plus douce et un petit peu plus en phase avec leurs désirs, plutôt qu'être en phase avec leurs peurs.
Alléluia. Alléluia, Claudia. Super. Et aujourd'hui, du coup, ça tombe très bien que tu parles de désir et de peur, parce qu'aujourd'hui, de quoi tu voulais me parler ?
De ma première fois.
Qui a créé plus de désir ou de peur ?
Plutôt des peurs et des blocages que du désir, oui.
Intéressant. Il n'y a pas de fumée sans feu, j'ai envie de dire. C'est parti. Salut à toi, chère auditrice, cher auditeur. Bienvenue sur mon podcast. C'est Colette. Je m'appelle Colette, c'est moi. C'est qui Colette ? C'est moi. Oui, c'est toujours moi, pardon, je n'ai pas bougé. Donc salut, c'est Colette du podcast Colette se confesse. Le média qui va enrichir ton imaginaire érotique grâce à deux formats. Les histoires immersives, donc ça c'est des histoires olé olé, grâce auxquelles chacun et chacune peuvent plonger à la découverte de ses envies, de ses désirs et de ses limites en toute sécurité. Pourquoi en toute sécurité ? Parce que t'écoutes une histoire, tu fermes tes yeux, c'est ton imaginaire qui va faire le travail, ainsi que mes créations sonores, et qui va te permettre de définir en fait qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu aimerais essayer, sur quoi aimerais-tu communiquer ? Peut-être est-ce que ça va te donner envie d'envoyer telle histoire à ton ou à tes partenaires ? Juste leur mettre le petit grain de sable dans l'oreille, tiens, est-ce que ça te dirait pas qu'on essaye de... Bon, voilà... vous me direz. Et les confessions où j'échange avec mes invités autour d'une anecdote intime, amusante, parfois excitante, parfois triste. Toutes sont terriblement sincères. Claudia, merci d'être là. C'est trop cool. Je suis super contente. On s'est rencontrés il y a quelques semaines maintenant ?
Ouais, je crois un mois, max.
Un mois. Et on a mangé quoi ? C'était un boboon, je crois.
On a mangé un boboon, oui.
Ouais, c'était pas mal d'ailleurs. Bonne adresse.
C'était bien.
Et Claudia, du coup, qui a été introduite par un ami en commun et qui nous a dit à toutes les deux « Ah, mais vous êtes faites pour vous entendre, vous allez forcément matcher !» Et il a eu raison, c'est vrai que c'était un super bon moment. On a parlé un peu toutes les deux, en plus carte sur table, parce que à la fois, je pense qu'on partage une sensibilité assez similaire et en même temps, bah, du coup, on s'est toutes les deux lancées dans l'entrepreneuriat, bon, toi avant moi. Donc, tu es un peu mon maître Jedi en cette matière. Mais donc, tout ce qui est entrepreneuriat autour de justement des relations intimes, amoureuses, prêcher un peu la bonne parole de OK, comment est-ce qu'on remet du bonheur là-dedans, les gars ? Et en fait, quel est l'important des relations amoureuses ? Est-ce que c'est dans le paraître ou est-ce que c'est dans le savoir-être ?
Bah oui, question de l'authenticité est hyper importante. Et surtout dans un domaine... Enfin, du coup, moi, je fais du coaching. Je suis coach en estime de soi et relations amoureuses. Et le monde du love coaching, c'est un monde qui est très envahi par le paraître parce que ça parle beaucoup de comment séduire, comment faire pour qu'un homme tombe amoureux de nous, comment faire pour qu'il ait envie de s'engager, enfin, ce genre de choses. Et donc, voilà, il y a peu de place pour l'authenticité, je vais y arriver, et pour le fait d'oser être soi pleinement. Et c'est quand même dommage parce que le paraître... Ça peut être très sympathique dans certaines occasions. Ça peut être sympathique aussi pour démarrer. Mais dans le temps, on peut pas rester dans le paraître éternellement parce que c'est épuisant et on va pas à la racine vraiment de l'intime, en fait, finalement.
Ouais, carrément. Et ça me rappelle d'ailleurs qu'on a vu cette conversation vis-à-vis de ça quand on avait déjeuné ensemble parce que On s'était confié un petit peu certains sites internet sur lesquels on était allé et on avait vu les discours des uns ou des unes qui te promettent que tu vas devenir la femme la plus importante de sa vie, que tu vas savoir sucer comme jamais, que et ce qui est terrible, enfin moi à chaque fois que je lis ces pages, ça me fait beaucoup de mal en fait dans mon petit cœur parce que bah parce que déjà, ça continue d'implémenter l'idée que qu'en fait, il y a tellement de mauvais en fait là-dedans. Je sais même pas par où commencer. Ça commence déjà ça continue déjà à dire que les femmes, nous sommes en compétition déjà les unes avec les autres. Donc voilà, on ne va plus penser qu'à toi. Donc comme si en fait tu étais en compète avec le monde entier. Comme si déjà la personne en face, que ce soit un mec ou une nana, comme si eux, ils n'avaient pas vraiment leur choix à dire. C'est non, moi, je suis en compète. C'est par rapport à moi et mes performances que l'on va m'aimer. Voilà, déjà, ça me gêne beaucoup. Bon, il y a deux choses qui me gênent. Est-ce que tu veux y aller? Parce que moi, sinon, je vais être en roue libre, là.
En plus, ce discours, il est souvent orienté vers les femmes, ouais. Hétéros. Et donc, du coup, il y a quelque chose de très, effectivement, patriarcal, misogyne. Enfin, voilà, c'est... Alors, il y a l'aspect purement sexuel que tu décris, effectivement, et dans l'aspect relationnel aussi, c'est hyper problématique parce que, en fait, ça enferme les gens dans les problèmes. C'est-à-dire que ils arrivent, ces coachs-là, avec ces propositions en disant je vais t'expliquer comment ça marche et je vais te donner des solutions. Mais en fait, les solutions qu'ils donnent, en général, ne font qu'aggraver les problématiques de base. Ou alors, ça reste tellement en surface que, on va pas à la racine.
Est-ce que tu as un exemple concret pour qu'on puisse visualiser pour tous ceux qui sont peut-être pas familiers avec le love coaching les pratiques dont on parle?
Typiquement, tu vois, il y a un conseil qui revient souvent, en tout cas pour les femmes, que moi j'ai aussi beaucoup entendu, il faut pas dire au début, quand tu rencontres un homme, que ce que tu recherches dans la relation. Tu vois, il faut pas dire, il faut rester évasif parce que sinon, si tu dis ce que tu cherches, quel que soit ce que tu cherches, tu vas lui faire peur. Et moi, je le vois, j'ai plein de femmes que j'accompagne qui restent bloquées en fait dans ce truc-là.
C'est terrible.
Je déconstruis vachement ça. Je leur dis, mais dites ce que vous voulez en fait, que vous vouliez un plan cul, que vous vouliez une relation, que vous vouliez. Enfin, quel que soit ce que vous voulez, exprimez-le et comme ça, vous aurez plus de chances de savoir si la personne en face, elle veut la même chose que vous. On est quoi? On joue un jeu, on fait semblant. Alors moi je veux une relation, mais du coup je vais pas lui dire, sinon il va avoir peur. Mais en fait, du coup il y a une espèce en plus de pseudo manipulation, de fantasme, tu vois, de toute puissance. De alors si je dis pas et que je mène mes billes au bon endroit, alors à la fin il va arriver là où je veux qu'il aille. C'est pas comme ça que ça marche en général.
Mais tu sais quand on joue à ça, on joue au feu de l'amour.
Oui, mais c'est ça.
C'est donc finalement si tu as envie que ta vie soit un éternel soap opera, en effet, ne dis pas ce qui te rendrait heureuse ou heureux, ne dis pas et puis continue à dire que c'est surtout jamais de ta faute.
Et puis en plus, c'est ça, c'est que ça commence là, mais du coup, ça s'étend forcément derrière à la sphère de la sexualité, où j'imagine, après, c'est aussi d'autant plus difficile d'exprimer ses envies, ses désirs, de poser ses limites, si on n'arrive déjà pas à dire ce qu'on cherche comme relation initialement, alors qu'on est habillé en face à face à une table. Qu'est-ce que c'est quand on est potentiellement tout nu dans un lit et qu'on est encore plus vulnérable potentiellement
Ce qui est intéressant, quelque part, c'est que la sexualité, en fait... ça va être un microcosme de tout ce qui se passe dans la relation. C'est que finalement, quand dans la journée, je dis la journée comme si le sexe c'est que le soir, mais c'est pas du tout le cas, mais je veux dire que quand dans la relation des choses qui ne vont pas, mais il y a des non-dits, on n'ose pas les dire, on essaie d'éviter, on essaie de fuir les problèmes, eh bien dans la sexualité, ça ressort. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est le langage de la sexualité qui va parfois mieux parler que tous les mots ou tous les signaux qu'on va essayer de s'envoyer le reste de la journée et incroyablement bien fait que la vie sexuelle, je fais une longue phrase, n'importe quoi, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est assez incroyable, c'est que après coup, une fois qu'on s'est dévoilé quelque chose dans l'ordre de l'intime, comme par exemple dans la sexualité, où nos corps ont parlé pour eux-mêmes, il y a plus de machine, il y a plus de retour en arrière en fait.
Bah oui, alors moi je le vois aussi beaucoup, c'est que souvent quand il y a eu, enfin quand tu rencontres quelqu'un qui a eu ses premières relations, il y a beaucoup de personnes, moi je dis beaucoup de femmes parce que c'est principalement des femmes que j'accompagne, mais j'imagine que pour des hommes c'est la même chose, mais où ça crée une illusion, enfin c'est pas une illusion, il y a une intimité physique qui a existé, mais il n'y a pas encore peut-être l'équivalent de l'intimité émotionnelle, psychique, parce que tu découvres à peine la personne, et du coup ça crée une enfin on a l'impression que la relation, ça y est, elle est complètement lancée, qu'on est très proche émotionnellement de l'autre personne, alors qu'il y a eu juste que, je mets entre guillemets, c'est pas que évidemment, hein, c'est hyper impliquant, il y a eu cette proximité physique, et du coup, ça, voilà, on va projeter beaucoup de choses là-dessus, et on prend pas le temps de se dire que bah, la relation, elle prend le temps de se développer aussi d'un point de vue émotionnel derrière, potentiellement, quel que soit le format relationnel. Hein.
Alors comment on fait pour pas se projeter ?
Bah, je pense qu'on peut pas s'empêcher de projeter, parce que ça voudrait dire s'empêcher de penser. Et je pense que c'est assez peine perdue. Et je pense que ce qu'il faut, c'est se connaître aussi. Savoir si... Il y a des gens qui sont très forts à projeter tout le temps. Ils aiment bien être dans ce truc-là, dans ce mécanisme-là. Et c'est savoir que c'est potentiellement une projection et avoir le courage d'aller confronter la projection avec la réalité. Je pense que c'est surtout ça. Parce que finalement, s'empêcher de projeter, s'empêcher de penser, c'est peine perdue.
Avoir le courage... d'affronter la réalité avec ses projections. Ça, c'est une belle phrase, ça me plaît.
T'aimes bien?
Ouais. Ouais, j'aime bien parce que ça rejoint le fait de dire, en fait, si tu as des émotions, embrasse-les pleinement, assume-les et va plutôt au-devant de tes émotions et sois honnête avec ce qui se passe. Enfin, n'aie pas peur de confronter justement tes émotions avec la réalité parce que parfois justement entre l'image qu'on se fait, ce qu'on a envie de croire et ce qui se passe vraiment, bah, à quel moment est-ce que t'écoutes l'autre ?
Bien sûr. Oui, et puis c'est aussi... enfin, si dans cette projection on imagine quelque chose, plutôt que d'imaginer, c'est poser la question. Parce que souvent, on essaye aussi, on passe beaucoup de temps à se demander ce qu'il y a dans la tête de la personne en face. Mmh. Et l'énergie serait mieux employée à lui poser directement la question. Alors après, souvent, quand on ne pose pas la question, c'est parce qu'on n'a pas envie d'entendre la réponse. Ce qui, en soi, est pas... Enfin, moi, je dis toujours, quand vous posez des questions, soyez prêts à entendre la réponse. Sinon, ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas facile.
Comment t'es arrivée, du coup, à ce cheminement-là, toi ? Parce que donc, tu disais que... Le début de tes relations était construite plutôt autour des peurs. Mmh. Aujourd'hui, tu te sens comment vis-à-vis de ça ?
Alors, par rapport aux peurs liées à la relation, si j'enlève la partie sexualité de la relation, ça va beaucoup mieux. Ça a été beaucoup de travail. C'est un travail en parallèle. C'est aussi en partie pour ça que j'ai créé Self Love Project il y a 4 ans maintenant. Après une grosse rupture fin 2017, voilà, j'ai eu beaucoup de questionnements. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et puis après, ça a été tout un cheminement. Et donc moi, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup interrogé la relation, mais vraiment sur l'aspect des émotions, tu vois, des blocages. Pourquoi est-ce qu'on galère, quoi ? Il y a autant de gens qui galèrent dans leur vie amoureuse. Et comment on fait pour arrêter de galérer ? C'est un peu mon angle. Sur l'aspect sexualité, je suis en train de commencer à travailler vraiment sur les blocages, dans le sens où là, je suis allée voir quelqu'un, une sexothérapeute, pour travailler vraiment spécifiquement sur ça, parce que c'est des choses, et on y reviendra tout à l'heure, mais qui sont là depuis 10 ans, 15 ans.
Quand tu dis sur ça, c'est sur quoi, si c'est pas trop discours ?
Non, bah, du coup, c'est sur les conséquences liées à cette première fois là dont je vais parler. Parce que du coup, c'est... Alors, je ne sais pas si tu veux que je dise maintenant, mais...
Non. Bon,
voilà, du coup, je laisse le suspense. Donc du coup, c'est sur ces conséquences-là et sur... après, le problème, c'est que quand tu ne traites pas la problématique tout de suite... Après, ça fait que des surcouches, ouais, qui viennent
déjà,
aggraver le problème,
bravo,
de base.
C'est trop bien que tu aies commencé ouais, ce suivi.
Ouais, bah,
c'est
bah,
courageux,
après,
c'est bien.
Mais en fait, c'est intéressant parce que tu vois, je vois, moi aussi, j'ai un podcast, j'invite les gens, je leur fais parler de leur vie amoureuse. Je parle de la vie amoureuse tout le temps, tu vois, les peurs, les émotions, j'ai pas de problème là-dessus. Je suis hyper, tu vois, je peux te raconter toute ma vie sentimentale. Mais c'est vrai que l'aspect purement sexuel, physique de la dynamique, c'est quelque chose sur lequel je suis vachement de pudeur. Et même avec mes amis, tu vois, genre, quand on est, maintenant, ça nous arrive moins parce qu'on a vieilli, mais même quand on était plus jeune, en soirée, les gens, ils racontent leurs histoires, leurs machins. Moi, en tout cas, dans un contexte de groupe, j'ai toujours été hyper mal à l'aise à partager ces choses-là. Et c'est, tu vois, là, c'est intéressant parce que j'analyse justement ce qui se passe en moi pendant que je suis là et en train de te parler. Et je sens que, tu vois, c'est hyper chargé émotionnellement.
Oui, je te sens un petit peu nerveuse.
Ouais, ouais, mais je sens, tu vois, j'ai une grosse boule là, j'ai le plexus qui est. Qui est un peu tendu.
Il est comment le plexus?
Il est un peu tendu. Comme ça. Non, non, mais du coup, c'est. Surtout que, bon, en plus, là, je raconte un truc qui est compliqué, qui derrière a entraîné beaucoup de choses, mais c'est pas grave, c'est bien, tu vois, c'est challengeant, c'est intéressant, et je pense que ça fait partie aussi, tu vois, du
cheminement. Peut-être que notre rencontre.
Mais complètement,
est là
mais
pour
c'est
ça.
Mais complètement, mais moi,
c'est intéressant.
C'est ça qui est hyper, hyper chouette, tu vois, voilà, comme je disais, l'aspect émotionnel, relationnel, il y a. J'ai pu, en long, en large, en travers, mais il y a toujours des choses à apprendre, hein, mais je suis hyper, j'ai pas de soucis. Dire que j'ai peur, j'ai pas de problème, tu vois. Genre, il y a des gens, ils arrivent pas à dire ça. Ouais. Mais c'est vrai que sur l'aspect sexuel, il y a vachement plus de tabous et de blocages, mais du coup, c'est bien, on est là pour travailler.
T'es une personne sensible, tu trouves, toi?
Oui. Je vais pas dire le contraire, ouais, je suis hyper. Enfin, je sais pas si je suis hyper sensible dans le sens où c'est pas un vrai diagnostic, c'est pas un vrai truc psychologique, tu vois, mais en tout cas, oui, je suis quelqu'un de très sensible, je pleure très facilement. Et je pense que j'ai beaucoup. Enfin, je suis très sensible parce que j'ai beaucoup d'empathie et que du coup, je me fais facilement dans ce que les gens ressentent parce que je capte aussi beaucoup. Tu vois, les énergies, sans être dans un truc mystique, hein, mais tu vois, dans le non-verbal des gens, je lis très facilement ce qu'il y a, donc, sans le vouloir, hein, c'est très automatique. Donc il y a ça. Et puis, mais je suis une hyper. Enfin, je suis très sensible, mais j'ai mis aussi beaucoup de couches de protection par-dessus. Donc beaucoup d'humour, je pense, moi, c'est mon arme. Il y en a, ils se renferment. Moi, je pense que je reste dans l'ouverture, mais c'est beaucoup d'humour pour cacher. Et après, mais oui, les gens qui me connaissent, enfin mes amis, ils savent que...
Oui, tu dis que tu as beaucoup travaillé avec les émotions, mais j'ai l'impression aussi que tu rentres beaucoup aussi dans les émotions, enfin que ce soit les émotions des autres, les tiennes, ouais. T'as un petit côté éponge, j'ai l'impression.
Ouais, 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 ouais. Ça va mieux. Donc tu me récupères à un moment de ma vie où ça va mieux, donc je te laisse imaginer ce que c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, donc tu vois, il y a 10 ans
mais
en arrière...
Mais tu m'as l'air tout à fait celle d'esprit, j'ai pas du tout dit ça.
Non, non, mais je sais pas. Non, non, mais c'est pour te dire, tu vois, il y a 10 ans en arrière, c'était encore pire, même si on oublie. Mais oui, il y a beaucoup ça. En plus, moi, je suis quelqu'un qui culpabilise très facilement. C'est lié à mon histoire personnelle, à plein de choses et tout, mais du coup dans cette captation des émotions des autres, d'être dans ce truc d'éponge, la culpabilité vient vite se mettre, tu vois, parce que tu te sens vite responsable des émotions des autres. Et et moi, un truc qui m'a beaucoup servi, c'est de comprendre que on pouvait avoir de la compassion pour les autres, on pouvait comprendre leur mal-être, leurs difficultés, mais c'est pas pour autant qu'on était obligé d'accepter, de subir les conséquences de ces émotions là Et quand j'ai réussi à faire ce shift, ça a changé beaucoup de choses. Et surtout, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie amoureuse, parce qu'avant ça, j'étais avec des hommes potentiellement, pas que, hein, mais qui avaient des difficultés, des problématiques où je sentais. En fait, quand je les. Maintenant, à posteriori, quand j'analyse, tu vois, je me souviens, les premières fois où je les ai vus, j'ai ressenti presque de la pitié. C'est horrible à dire, mais c'est presque un truc de pitié, tu vois, je sais pas, mais c'est très automatique, parce que je pense que je les sentais fragiles d'une certaine manière.
Tu penses que tu avais le syndrome de la sauveuse?
Ouais, je pense qu'il y avait beaucoup de ça. Oui, bien sûr. Bah après, encore une fois, voilà, j'ai travaillé beaucoup en thérapie pour savoir pourquoi, d'où ça venait, et etc. Mais ouais, quand même, comprendre déjà aussi intellectuellement ce truc de... Ouais, les gens, des fois, ils vont pas bien. Parce que moi, je pense pas qu'il y ait... Enfin, ce qui est important, c'est d'essayer de sortir de la dichotomie. C'est noir ou c'est blanc, c'est bien ou c'est mal. Il y a des gens méchants, il y a des gens gentils. C'est pas facile parce qu'on est vachement éduqué là-dedans et... Je pense que fondamentalement, des gens méchants, il n'y en a pas vraiment. Il y en a, mais c'est quand même assez rare, heureusement. Tu as juste des gens qui sont en souffrance. Et parce qu'ils sont en souffrance, ils ont des comportements de merde, potentiellement. Et ça ne veut pas dire qu'il faut excuser le comportement de merde. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas punir le comportement de merde. Mais tu vois, c'est deux aspects différents. Et quand on ne comprend pas ça, on a tendance à être dans une espèce de surempathie où on va tout excuser, on va tout accepter parce que le pauvre ou parce que la pauvre, elle a mal, elle souffre, c'est difficile. Et du coup, il faut arriver à poser la limite entre ces deux trucs-là.
Ouais, bah justement, j'allais dire le mot limite. Et c'est d'où l'intérêt de mon podcast et peut-être du tien. J'ai écouté. Mais c'est justement apprendre à connaître, apprendre à se connaître pour pouvoir ensuite poser ses envies, ses besoins, ses limites. Et c'est notamment du coup ce qu'on voit dans ton coaching, dans le mien, pas de la même manière. voilà, moi, c'est vraiment par le biais de l'imaginaire et de la création d'un alter ego et de. Voilà, aller toucher l'extraordinaire depuis l'ordinaire Et ouais, et puis croire en soi, en fait. Moi, je pense que j'ai l'impression que tout démarre de là. C'est parce que tu crois pas en toi que du coup... Alors, je dis ça parce que je l'ai cérébralisé, mais en fait, sur le moment, c'est pas ce qu'on se dit. On se dit pas, parce que j'ai pas confiance en moi. On se dit, mais l'autre, il me demande ça. Pourquoi je dirais pas oui? Mais on peut le faire. Après tout, si ça lui fait plaisir... Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? À force de faire plaisir aux autres, on s'écoute plus, on sait plus vraiment ce qui nous fait plaisir. Et puis, du coup, parfois, on pense que ça nous fait plaisir aussi, mais en fait, peut-être qu'on a atteint certaines limites ou peut-être qu'on a juste trop dit oui et qu'on a fait beaucoup de pas pour l'autre et que l'autre n'a pas fait pas pour nous. Ou vice versa. Parce que là, je parle comme dans le cas où on a le syndrome de la sauveuse ou du sauveur, mais il y a, donc dans le triangle de Hartmann, il y a trois positions. Il y a le bourreau, la victime, et le sauveur, et la même personne peut changer de l'un à l'autre. Donc on peut être aussi le bourreau de quelqu'un et on peut aussi être le ou la victime de quelqu'un d'autre, ou même tout ça à la fois avec la même personne mais pas dans les mêmes moments de la journée. Oui, c'est un joyeux bordel.
Mais c'est pas les relations les plus tranquilles, celles-là.
Non,
on n'est pas détendu en général dans ce genre de dynamique relationnelle.
C'est quelque chose que t'as vécu pas mal.
L-E-L-E-O, Lélo. Et cette année, Lélo, pionnier du marché des accessoires intimes haut de gamme, fête ses 20 ans. Je suis super fière de fêter cette collab avec eux et pour l'occasion de vous offrir un code promo de 25% avec le code COCO25. Il a une petite particularité, ce vibro-là particulièrement, le Lélo Dot Cruise. Au moment de l'orgasme, il va relâcher 20% supplémentaire de vibration pour justement créer cette décharge dans ton corps. Au-delà de leurs produits qui sont super classe, si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à checker leur site et je vous mets le lien dans la description avec le code promo COCO25. Et franchement, venez me dire ce que vous en pensez. L-E-L-E-O, Lélo.
Oui, je pense. Alors, j'ai pris du recul, j'ai jamais pris le temps de les analyser vraiment sous le prisme là du triangle à proprement parler. Mmh. Mais oui, effectivement, d'être.
T'as jamais ressorti les conversations Messenger ou WhatsApp? Non, moi, j'ai déjà fait ça, j'avoue.
Ouais, alors moi, j'ai une politique de la terre brûlée post-rupture.
D'accord.
Radical. Donc j'avoue que quand c'est fini, en général, je bloque sur tous les réseaux, j'efface le numéro de téléphone, j'efface les conversations et
okay,
rideau.
D'accord.
Je ne dis pas que c'est bien, hein, mais je dis juste que je suis
c'est
un peu comme
truc,
ça. Tu vois, ma dernière rupture, moi, c'est une relation, c'était en 2021, du coup. C'est une relation qui avait duré un an, en plus pendant la période Covid, c'est un petit peu le bordel. Mais genre, il m'a quittée et heureusement, parce que bref, c'était compliqué. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris les cadeaux qu'il m'avait offert, j'ai tué genre collier, j'ai déchiqueté le livre, j'ai réduit en mille morceaux.
Ah oui, donc c'était... Ah, non,
mais en fait, okay. Genre, bah voilà, tu me dis, est-ce que t'es dans l'émotion? Jamais. La meuf détruit tout, tu vois.
Ça va.
J'ai tout foutu à la poubelle, voilà. Mais du coup, j'ai sorti ma rage, ça m'a pris 15 minutes, et après j'ai commencé mon processus de deuil. Mais bah, c'est un peu radical, hein, je reconnais.
Bah après, si au bout de deux jours tu vas bien, j'ai envie de dire.
Oui, faites ça.
C'est peut-être le meilleur conseil que tu puisses donner.
Détruisez tout. Non, bah, au moins, t'as pas. Après, bon, là, c'est une relation particulière et tout. Je l'ai pas fait à ce point-là à chaque fois. Mais là, vraiment, ça a été.
Lui, c'était la goutte de trop. C'est le mec de trop, en fait, j'ai envie de dire.
Ouais. Bah, du coup, en fait, ça a été ma dernière relation. Enfin, vraiment, relation un peu merdique. Après, j'ai eu des rencontres à potentiel, mais qui ne s'est pas développée. Et après, j'ai réussi à valider le level de OK, je suis revenue dans le monde des gens qui sont prêts à relationner. Je vais pas dire normal parce que c'est pas un bon terme, mais qui sont prêts à relationner dans des conditions
dans le bonheur.
Intéressantes.
Dans le bonheur et la bienveillance.
Oui, voilà, c'est ça. Qui
sont dans la générosité.
Oui, et puis dans la compréhension de soi-même, déjà.
Ouais. Enfin, tu vois, oui,
ça, c'est important. Ouais.
Mais c'est rigolo parce que, oui, moi, c'est assez tout l'inverse à ce niveau-là. J'ai tendance à tout conserver. J'adore conserver. Mais je conserve tout, hein, toutes les discussions, même avec les amis, j'adore. Hein.
Ouais.
Mais en fait, pourquoi j'adore? Parce que une fois, je l'avais fait pour un de mes premiers mecs, je sais pas, quand j'étais ado. Et par hasard, en nettoyant mon disque dur des années plus tard, je suis retombée dessus. Puis je l'ai ouverte vraiment comme ça, en mode « Oh, tiens, oh, c'est rigolo, j'ouvre. » Et je suis retombée sur des conversations. Et je me suis rendu compte qu'entre le souvenir que j'avais, ce que je pensais que le mec me disait, et ce que je lisais là, des années plus tard, j'étais en mode « Oh, mais mon Dieu, quoi !» Mais en fait, d'accord, c'est ça qui s'est passé réellement. Et en bien et en mal. C'est que je me suis aussi rendu compte de mes erreurs, là où avant j'étais probablement dans la mauvaise foi à me dire ah ben non, mais là, mais bien sûr que moi j'ai bien fait de penser ça et de lui dire ça et nanani et que je lui reprochais ça. Et là je me dis ah non, mais en fait, peut-être que le mec essayait aussi de te dire des choses que t'as pas voulu voir.
Bien sûr.
Et donc du coup, depuis, je me suis dit, je trouve que c'est une super arme de pour apprendre à se connaître, en fait. Parce que du coup, parfois, dans les conversations texto et tout, en plus, tu réagis parfois un peu sous le coup de l'émotion, justement, un peu dans le dur. Et c'est justement, c'est un peu ces points-là que quand on veut se faire mal, mais du bien sur le long terme, c'est ces points-là qu'il faut aller creuser.
Non, mais t'as raison. En vrai, je pense que c'est une bonne idée. Hein,
si je t'enverrai mes conversations, si tu veux.
Je ferai de la post-analyse.
Mais comme ça, tu pourras te projeter sur mes conversations et te demander si le mec était bien pour toi, mais c'était mon mec. Enfin, bref.
Non, mais c'est un bon outil aussi. T'as raison, effectivement, hein, de regarder avec du recul quand l'émotion est à circuler aussi. Et enfin, on l'a tous fait, hein, d'envoyer un message et puis deux jours après, tu relis, tu fais putain. Merde, j'aurais pas dû.
Oui, je l'ai peut-être un petit peu pris à cœur.
Voilà, c'est ça. Et après, c'est comme ça, tu vois. Enfin, le but, et moi, c'est ce que je dis toujours aux personnes que j'accompagne, tu vois, même en travaillant sur soi, le but, c'est pas de devenir parfait, c'est pas d'être une machine qui répond parfaitement en mode communication violente, nanana, qui est dans... Personne ne sait faire ça, tu vois. Là, je pense que l'important, c'est de plus en plus de faciliter ces processus d'écoute de soi pour fluidifier les choses, mais surtout d'être capable d'analyser a posteriori en se disant « Ouais, ok, là, j'ai merdé. Bon, j'y retourne, je m'excuse, on en discute et on décante le truc, quoi. Ouais. » Parce qu'on peut pas tout le temps être parfait dans le moment où on est pris dans l'émotion. C'est impossible. Impossible.
Non, c'est clair. Quand tu dis, du coup, que la sexualité, c'est difficile pour toi, ça t'as des bagages par rapport à ça, est-ce que tu veux bien en parler déjà? Est-ce que ça a toujours été le cas, ou est-ce que c'est venu tôt dans tes relations, ou est-ce que c'est venu tardivement? Enfin voilà.
Je pense que.
Et pourquoi? Pardon, excuse-moi. Ouais, et après j'ai terminé. Pourquoi? Et du coup, pourquoi est-ce que ça t'amène à autant dissocier? Parce que c'est là où c'est intéressant, c'est que notre discours est pas du tout le même là-dessus. C'est que pour moi, relation ou sexualité, c'est la même chose, parce que pour moi, l'un parle avec l'autre, c'est un ping-pong. Et là, toi, dans ce que tu me dis dans le discours, c'est vrai que tu les dissocies vachement.
Alors, je réponds juste à celle-là en premier, parce que... en fait, effectivement, je pense que moi, je le dissocie parce que c'est lié, moi, à mon histoire et à mon mode de fonctionnement. Mais je suis complètement d'accord avec ta vision des choses, qui est que c'est lié, parce que de toute façon... Quand on fait du sexe avec quelqu'un, quelle que soit la relation dans laquelle on est, on a une forme de relation avec cette personne, et que la sexualité fait partie aussi de la relation. Donc je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit deux choses qui sont liées, avec des problématiques de fond qui sont pas les mêmes, mais qui viennent toucher au même endroit, les limites, les peurs, le désir, toutes ces choses-là. Après, moi, je me suis hyper spécialisée, on va dire, sur l'aspect vraiment célibat, enfin, tu vois, sur l'aspect relationnel de toutes ces choses-là, parce que la sexualité, j'estime qu'il y a un autre sujet d'expertise potentiellement à avoir, et que moi, c'est pas une expertise que j'ai, ou que ça vient toucher à d'autres choses, potentiellement à des traumas, des trucs comme ça, etc. Et qu'en plus, comme je pense que c'est un sujet qui est compliqué pour moi, effectivement, je me suis moins penchée là-dessus. Mais peut-être que, tu vois, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est des choses qui vont se réconcilier aussi dans mon travail. Mais tu vois, comme tous les psys ne sont pas on n'a pas une spécialisation en sexothérapie.
Tout à fait.
Enfin, voilà, tu vois, après, je pense que c'est ça. Et que moi, ça a été vraiment sur pourquoi on n'arrive pas à avoir des relations. Et quand là, moi, je mets relations dans mon spectre là, c'est aussi des relations longues, enfin la longueur n'est pas un facteur de succès, mais des relations engagées, si c'est ce qu'on désire, construire un partenariat de vie avec quelqu'un. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour certaines personnes, sachant que c'est source de souffrance pour beaucoup, même si, encore une fois, c'est pas du tout une fin en soi et une obligation. Mais il y a des gens, c'est ce qu'ils désirent et ils n'y arrivent pas. Et du coup, qu'est-ce qui fait que là, ils n'y arrivent pas, en fait? Pourquoi c'est bloqué à cet endroit-là? Et moi, c'était ça la question qui m'a amenée là-dessus en premier. Pardon. Parce que c'était aussi mon questionnement personnel. Et du coup, c'est là-dessus que je l'ai pris. Mais en fait, t'as raison, tout est... Il y a une imbrication, évidemment. Donc ça, c'était la dernière question. Maintenant, il faut que je me rappelle la première. Non, la première dans mon histoire. Je pense qu'on n'a jamais trop parlé de sexualité avec mes parents. Enfin, je pense que c'est assez sûr. Moi, j'étais assez tardive dans mon début de relationnel, dans le sens où la première fois que j'embrassais un garçon, j'avais 18 ans, tu vois. Et parce qu'avant ça, j'étais beaucoup dans le fantasme. J'avais des crushs, tu vois. Genre, j'ai crushé pendant 3 ans au collège sur un mec qui je suis jamais allée vraiment parler. Enfin, tu vois, j'étais vachement dans la projection. Et je pense que j'avais beaucoup d'inhibition aussi, d'une certaine manière. J'ai eu cette première relation à 18 ans qui a duré 5-6 mois. Donc, premier baiser. On a eu un début. On a eu une forme de sexualité parce qu'on a fait... je mets des guillemets à préliminaires pour que ce soit plus facile à comprendre. Mais on n'a pas, il n'y a pas eu de pénétration. Voilà. Donc, à l'époque, comme j'étais jeune et que je n'avais pas encore déconstruit tout ça, j'avais l'impression de ne jamais avoir fait l'amour. Mais bon, c'est un autre sujet.
Mais, comment ça, pardon?
Bah, parce qu'en fait, je pense qu'à l'époque, en tout cas, moi, la façon dont j'étais éduquée dans ma génération, faire l'amour, c'est avoir un rapport pénétratif. Donc, si tu fais fellation, cuni, toutes ces choses-là, c'est pas faire l'amour avec quelqu'un, tu vois, c'est des trucs qui sont à côté. J'ai changé d'avis, évidemment. Maintenant, j'estime que déjà, quand t'es tout nu dans un lit avec quelqu'un, tu commences à faire l'amour parce que je ne me mets pas tout nu avec plein de gens random dans ma vie.
Mmh. Alors, pour moi, on commence à faire l'amour au même moment.
Oui.
En fait, par moi, enfin, je peux te regarder et faire l'amour déjà.
Bien sûr, effectivement. Mais c'est oui, mais t'as raison. Finalement, non, mais l'acte, il commence aussi avant, dès que tu entames un relationnel avec quelqu'un.
Tu vois pas que je suis en train de faire l'amour là, déjà.
Non, mais t'as raison. Mais c'est sur l'aspect plus l'aspect vraiment matériel du moment où il y a les corps qui se rencontrent, qui se touchent, on va dire.
Alors, ceux qui n'ont pas, ceux qui nous écoutent et qui ne regardent pas sur YouTube, je suis en train de faire des petites avances avec mes mains sur la table vers Claudia. Donc c'est pour ça qu'elle commence à rigoler parce que je crois que je suis mignonnement en train de la mettre mal à l'aise. C'est très mignon. J'aime beaucoup.
Mais donc du coup, bon, ça ne dérange pas, regarde.
Ah oui,
c'est bon, tout va bien.
Ah, j'aime bien. C'est cool.
Mais bon, en tout cas, à l'époque, voilà, j'avais encore une vision très vintage. J'ai 150 ans. Du rapport sexuel et de ce que ça impliquait et tout. Et je ne sais plus pourquoi je raconte ça. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que j'ai assez peu parlé de sexualité avec mes parents. J'ai assez peu parlé de sexualité avec mes parents. Ce n'est pas du tout des sujets qui étaient open. Non pas que ce soit, au contraire, tabou, tu vois. Mais en tout cas, on n'en parlait pas. Et donc, je ne sais plus où je voulais en venir.
C'est pas tabou, mais si tu ramenais un mec, c'était gênant.
Non, parce que tu vois, cette première relation que j'ai eue à 18 ans, je vivais encore chez mes parents. Et je le ramenais. Alors, à l'époque, mes parents étaient séparés. Depuis, ils sont remis ensemble. C'est pour ça que je dis à l'époque. Donc, à l'époque, ils vivaient dans deux appartements différents. Et je le ramenais plus. Ouais, je crois que je l'ai jamais ramené chez mon père. Donc, tu vois, il y avait peut-être un sujet quand même. Mais je l'ai. Enfin, voilà, je le ramenais un week-end sur deux, parce qu'un week-end sur deux, on allait chez lui. Ça n'a jamais posé de soucis. Mais tu vois, c'est là où j'ai eu limite, je pense, la première conversation sur la sexualité avec ma mère, qui un jour m'a dit, au moment où il venait de partir, elle m'a mise sur le canapé du salon avec elle, et elle m'a dit oui, est-ce qu'il faut que tu prennes la pilule ou un truc comme ça, tu vois. Je pense que c'est la seule conversation sur la sexualité que j'ai eue avec mes parents.
Et encore, j'ai envie de dire, c'est cool.
C'est déjà pas mal.
Ouais, bah oui, parce qu'elle n'a pas été intrusive, elle t'a juste demandé est-ce que t'as besoin de te protéger.
Oui, c'est ça.
Enfin, il y a mieux à faire, c'est sûr, mais j'ai envie de dire, enfin, j'ai pas eu ça avec ma mère, ça peut te rassurer.
Ouais, non, mais je pense que j'ai un peu un fantasme, tu vois, des fois, c'est dans les séries américaines, tu vois, les parents qui parlent à leurs enfants, genre de façon hyper libre, mais bon, c'est peut-être très fantasmé, et personne n'a des parents comme ça dans la vraie vie.
Si, bah il y en a, c'est vrai que j'ai des copines, je voyais bien la différence. Quand j'allais chez elle, j'étais en mode waouh, putain, c'est trop cool. Genre, avec ta mère, vous parlez genre normal et t'as déjà 14-15 ans et c'est déjà. C'est juste normal, mais ouais. Non, mais j'ai pas eu ça non plus. Voilà.
Bon, ça va. donc voilà, c'était un sujet pas trop abordé. Et je sais plus quelle était ta question à la base. C'était.
Je ne sais plus non plus, mais là où je voulais en venir, pourquoi je te posais cette question? Parce que du coup, à la base, c'était pour savoir en fait un peu les origines de pourquoi tu dissociais l'un et l'autre, et du coup, qu'est-ce qui t'a conforté en fait par rapport à tes premières expériences à dissocier l'un et l'autre? Là, en gros, je te demande basiquement de te livrer au fur et à mesure vis-à-vis de tes relations et de nous bien raconter sûr. Un petit peu si tu es d'accord, bien sûr.
Bien sûr, du coup, il y a eu cette première histoire qui s'est terminée. Et ensuite, je ne sais plus quelle année c'était il y a longtemps.
On s'en fiche.
Et du coup,
j'encourage mes invités à antidater, même parce qu'on est là vraiment pour l'anecdote et pas pour le. Sûr. Et voilà. Et ça, ça te regarde en fait. C'est ton intimité.
C'était il y a un paquet d'années. du coup. Et du coup, après, j'ai rencontré une autre personne. C'était à l'anniversaire d'une amie à moi, d'une très bonne amie à moi. je ne sais plus trop comment on a commencé à se parler. Je me souviens vaguement, fin de soirée, on était dans un canapé à échanger et tout. Lui, c'était le mec hyper dragueur, hyper comme ça. Moi, j'étais assez timide, assez réservée.
Ça aurait pu partir en plan A3, vu comment tu présentes la situation.
Non, parce qu'il y avait encore plein de gens dans la pièce. Hein. Alors, ils étaient globalement tous étudiants en médecine, donc effectivement, ça aurait pu vite déraper. mais non, je pense qu'on a juste discuté. Et franchement, j'ai assez peu de souvenirs de comment on s'est retrouvés à se revoir. Mais en tout cas, c'est arrivé, obviously, puisqu'on a entamé une relation. c'est assez flou. Hein. Après, c'est il y a 15 ans. On a commencé à se voir, à se fréquenter régulièrement. Il n'y avait pas de rapport. Je sais même pas
Il te plaisait, ce garçon?
Ouais, franchement, c'est assez. Je pense que j'ai un peu fait un blackout, hein, tu vois, sur un truc. Parce que j'ai plus de souvenirs de ma relation d'avant et de mon premier baiser.
De la relation juste avant lui.
Tu vois, dont je parlais là. Je me rappelle avec ce mec.
C'est intéressant parce que là, comme t'en parles, on ne sait même pas s'il te plaisait, s'il y avait du flirt.
Franchement, je pense qu'on a flirté pendant l'anniversaire. Mais tu dis, j'étais vachement. Je pense que j'étais assez passive, tu vois, dans le fait de recevoir l'attention d'un mec à l'époque.
Me demandé si t'étais consentante à draguer avec ce... Non, mais c'est vrai.
Je pense que oui, quand même. Il y avait un truc... Il y avait peut-être une forme d'emprise indirecte. Tu vois, enfin, quand je dis indirecte, c'est dans le sens où, comme j'étais un peu comme ça, timide, tu vois, que j'avais pas trop confiance en moi à l'époque... Quand un mec s'intéressait à moi, ça me paraissait un peu grandiose, tu vois. Et ce mécanisme de passivité, d'être choisi, c'est un truc qui est assez récurrent chez beaucoup de femmes, hein. Moi, je le vois. Donc, je pense que j'étais vachement là-dedans. Et c'est ouf, hein, parce que tu vois, j'essaye de chercher des souvenirs. J'ai vraiment très peu de souvenirs. J'ai des souvenirs négatifs. Non, mais j'ai des images de moi à la bibliothèque à Pompidou. Parce qu'à l'époque, on était étudiants. Et du coup, on y allait, on se retrouvait le week-end là-bas pour bosser. Et je le vois me dire... Oui, parce qu'à l'époque, j'étais encore en études d'orthophonie, que j'ai arrêtée. Et donc, en fait, c'était l'année où je me posais la question, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? D'accord. Et genre, ça m'était super mal et tout. Bref, et du coup, je lui ai dit, je vais arrêter et je vais aller faire un DUT. Et le mec m'a regardé de haut en me disant... je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, mais ça sous-entendait si tu vas faire un DUT, c'est que tu es complètement débile, complètement teubé. Enfin, voilà, tu vois, c'était ça un peu la dynamique de la relation. Et moi, j'étais là, genre, ah oui, ok, machin. Enfin, bref. En fait, je pense que je me laissais complètement écrasée dans cette relation.
Après, il y a aussi le truc que quand tu es jeune, que tu es étudiante, en gros, tu sors à peine des jupons de tes parents et tu es encore dans ce truc de ah, mais il faut bien faire, il faut être une bonne personne. Une bonne personne, ça fait des grandes études parce qu'on va tout. Enfin, c'est un peu sur ce qu'on m'a toujours appris. Donc, peut-être qu'il y avait aussi un peu de ça où tu disais il faut que je sois dans le moule parce que on dit souvent que les premières parties de notre vie on veut faire comme papa maman, enfin comme on nous a appris, et puis finalement plus on se rapproche de la trentaine, plus on devient quelqu'un d'autre, et en fait on devient le réellement nous.
Bien sûr.
Après, enfin, je dis trentaine, mais chez certains c'est la quarantaine, chez d'autres c'est la cinquantaine. Bon, après il y a pas de
faut se débarrasser des couches de l'oignon au fur et à mesure.
Ouais, Shrek.
C'est ça. Mais en tout cas, ouais, c'est. Enfin, sur l'aspect purement relationnel du début, de comment ça a démarré, de comment ça s'est passé, j'ai assez peu de souvenirs. Je saurais même pas te dire est-ce que j'étais bien ou pas bien.
Tu te souviens que je puisse me raccrocher à quelques vagues.
Ouais, ouais. En classe, ça a commencé. On a commencé à se fréquenter. On n'avait pas de rapport sexuel pénétratif. Comme j'étais vierge, moi, je voulais attendre et je voulais. Voilà, que ça se fasse pas tout de suite. En tout cas, j'étais pas à l'aise pour que ça se fasse tout de suite.
Et c'était ta première fois en préliminaire aussi?
Non, parce que du coup, dans la relation d'avant,
d'accord,
y avait ça s'était bien passé. La relation d'avant, c'était mal terminée, mais quand j'y étais, c'était un espace qui était assez safe, vois.
Les histoires d'amour finissent mal en général.
Tu vois, c'est pour te mettre l'époque, ça s'était fini en pugilat de commentaires sur les Skyblogs. ça replace le truc. Les gens qui ont moins de 20 ans ne comprennent pas de quoi on parle.
Je crois que maintenant on connaît ton âge.
Non, mais voilà, tu vois. Donc, mais en tout cas, quand on était ensemble, c'est un espace où je me sentais à l'aise avec lui. Tu vois, il y a eu des préliminaires, des choses comme ça. Ça se passait bien, il n'y a pas de souci. Et moi, je me sentais assez libre, tu vois, dans ce truc-là. Et donc ensuite, il y a eu cette deuxième relation où, pour le coup, lui, je pense qu'il poussait un peu pour aller plus loin, mais j'avais dit, pas tout de suite, je suis pas prête, moi j'ai envie d'attendre un petit peu. Je suis assez étonnée qu'il ait accepté, vu la personnalité qu'on découvrira plus tard. Et finalement,
Où est-ce que tu m'emmènes ?
À un moment donné, un jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillée. Franchement, je ne saurais pas te dire si j'en avais vraiment envie ou si je me suis sentie obligée parce que, tu vois, ça faisait un mois et demi, deux mois qu'on était ensemble. Je ne saurais pas te dire... Ah oui, si, je crois que c'est ça le déclencheur. C'est qu'en fait, après, je partais en vacances pendant un mois en Inde. Et du coup, je pense que le truc, ça a été, si on ne couche pas ensemble avant que je parte en vacances pendant un mois, il va me quitter. Je pense que dans ma tête, c'est un peu ça qui s'est passé, tu vois. Là, si je recolle les wagons. Donc, je lui ai dit...
C'est toi qui t'es...
C'est moi qui me suis... En fait, on avait un truc.
Persuadée de ça ?
Ouais, je pense que... Bah, après, je pense que, tu vois, j'avais 19 ans, j'avais pas confiance en moi. Il y avait un truc social un peu autour de ça, de... Le sexe, c'est 99% de la relation. Si tu fais pas l'amour, il n'y a pas de relation et tout. Je me rappelle d'ailleurs de conversations que j'avais eues, je sais plus si c'était à cette période-là ou après avec ma mère, je crois que c'est après, mais justement sur est-ce que si on fait pas l'amour avec quelqu'un, il y a quand même une relation, est-ce qu'il peut quand même nous aimer, enfin voilà, toutes ces choses comme ça et tout. Mais toujours est-il que...
Ta mère, elle avait dit quoi, pardon ?
Ma mère, elle m'avait dit... Alors là, c'était une conversation hyper intéressante parce qu'elle m'avait dit bah, oui, bien sûr. Il y a plein de gens qui ont été... Il y a eu plein d'histoires de grandes histoires d'amour dans l'histoire humaine où les gens n'ont jamais couché ensemble, voire se sont même jamais embrassés. Et ça a été des histoires très passionnées malgré tout. Mmh. Voilà, donc elle me donnait... Je ne sais plus quels exemples elle avait cités à ce moment-là. Mais, et du coup, ça m'avait vachement rassurée. J'étais, ah, ok, bon, ça va. Mais je pense que ça, c'était après cette expérience. Et en fait... Je ne sais plus pourquoi, mais le truc qu'on s'était dit donc avec ce mec que nous appellerons, appelons-le Alphonse. C'est pas du tout son nom, mais appelons-le Alphonse, ce sera plus simple.
Très bien.
Donc avec Alphonse, nous avions décidé que le jour où je serai prête, je viendrai avec, je ne sais pas pourquoi, une bougie. Et je rencontre un peu le message.
C'est mignon.
C'était mignon. Donc voilà. Donc un jour, je prends cette décision plus ou moins sous la pression intérieure, extérieure de « il va me quitter, machin ». Et donc, je débarque chez lui, donc dans le 16e arrondissement à Paris, dans sa chambre de bonne, sous les toits, un jour de juin, donc il devait faire beau, j'imagine, avec ma bougie, pour lui dire « c'est bon, je suis prête, on y va
». Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com